C'est l'heure du débat des grandes voix jusqu'à 19h. Un débat ce soir à distance depuis chez eux avec Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1, Mickaël Darmon, éditorialiste à Europe 1, et Laetitia Krupa, journaliste et spécialiste de communication politique.
Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir Sébastien.
Bonsoir.
On est tous en ligne et on va faire vivre ce débat jusqu'à 19h avec vous tous au 39-21. Vous réagissez, vous échangez avec nous aussi sur les réseaux sociaux, hashtag Europe 1 ou hashtag Radio Ouverte. On va revenir bien sûr sur ces mesures annoncées hier soir par Emmanuel Macron et qui sont entrées en vigueur à midi. Intervention télévisée qui a été suivie par plus de 35 millions de Français. Hein, à la télévision hier soir à 20h, c'est un record absolu d'audience à la télévision française, et ça ne comprend pas tous les auditeurs qui l'ont écouté à la radio ici même par exemple. Mesure de confinement qui s'applique, on l'a compris, plutôt facilement dans certains lieux, plus difficilement dans d'autres, et déjà des critiques. Est-ce que c'est suffisamment strict? On a entendu déjà quelques critiques ces dernières heures. Qui commence? Mickaël Darmon peut-être. C'est Marine Le Pen qui finalement dit que ce n'est pas suffisamment strict.
Oui, parce que Marine Le Pen a été la première à dire depuis le début qu'il fallait être dans des logiques de confinement très sévères. Donc elle poursuit son discours et son propos, et surtout parce qu'elle sent qu'il y a une brèche, parce qu'elle sent maintenant qu'effectivement il y a eu des moments d'hésitation, de tergiversation sur de propos de incohérents parfois, en tout cas contradictoires, notamment autour de l'affaire du report des élections municipales. Et je dirais enfin elle se dit il y a une brèche dans laquelle s'engouffrer pour retrouver la capacité à s'opposer et à pouvoir critiquer le gouvernement, parce que il faut aussi qu'elle fasse un peu l'équilibre. Hier, elle a quand même sans embâge, après la déclaration, les déclarations du président de la République, elle a tout de suite reconnu qu'elle se rangeait donc dans le, qu'elle rejoignait cette union nationale qu'appelait le président donc de la République de ses vœux, et peut-être aussi veut-elle envoyer un contre-message aussi à ses électeurs.
Bon, alors elle fait de la politique, Marine Le Pen, est-ce que ça la grandit vraiment? Je ne sais pas. Laetitia Krupa, est-ce que vous avez trouvé suffisamment de fermeté dans le discours d'Emmanuel Macron hier soir?
Bah écoutez, c'est comme ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est-à-dire qu'encore une fois, cette communication politique est séquencée, elle se divise. Elle se divise parce que le président prend la parole une première fois. La semaine dernière, c'est Édouard Philippe, ensuite, qui dans la foulée a annoncé les mesures sévères, et finalement celles qu'on a retenues. Pourquoi? Parce qu'elles sont concrètes. Et là, encore une fois, hier soir, le président, bien sûr, est solennel, il utilise ce mot « guerre » qui est repris aujourd'hui dans tous les médias, dans toute la presse. Donc, effectivement, ça a imprimé, bien sûr. On est en guerre sanitaire, le message est passé, mais il refuse d'utiliser le mot confinement. Alors on l'apprend grâce à nos confrères du Parisien notamment, ça a été fait à dessein, c'est-à-dire que son entourage et lui-même ont trouvé que ce mot était trop imprécis, trop anxiogène, et qu'il signifiait surtout l'arrêt de l'économie. Et donc qui utilise ce mot, c'est Christophe Castaner, dans la foulée du chef de l'État hier soir, puis ce matin. Donc on surdivise cette communication, et ce soir, pour couronner le tout, on a le Premier ministre en duplex à 20h dans le journal télévisé. Donc vous voyez que cette communication, à trop vouloir la séquencer, alors est-ce que c'est pour avoir un objectif de marteler le message pour qu'il passe, mais en changeant les incarnations, finalement on dilue le message. Or, en crise sanitaire, il faudra le répéter, je pense maintenant plusieurs fois, c'est le chef de l'État, c'est lui le seul à incarner la communication politique au plus haut degré.
C'est vrai qu'il n'est pas rentré dans les détails et dans les modalités pratiques. Et hier soir, ici même en direct après son intervention, on se posait encore beaucoup de questions sur qui aurait le droit de circuler et comment, et est-ce qu'il faudrait un laissez-passer, etc. On n'avait pas tous ces éléments-là. Et Roger, vous avez des informations justement sur la façon dont la décision a été prise, puisque c'est le ministre de la Santé qui a donné des précisions aujourd'hui.
Alors, le ministre de la Santé était effectivement avec les membres du conseil scientifique. Vous savez qu'il a mis en place la semaine dernière, où il y a des épidémiologistes, des anthropologues, etc., qui ont justifié les choix des décisions politiques. Et la première chose qu'on peut entendre, c'est effectivement le discours est séquencé, mais c'est aussi parce que l'acceptation de telles mesures est difficile. Ils disent que l'acceptation est presque plus difficile que la décision elle-même. Donc, en fait, c'est peut-être pour habituer les Français, leur esprit, à se dire que petit à petit, on allait vers le confinement. Peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles la communication était faite de façon séquencée, parce que si la population n'accepte pas, les effets escomptés ne viendront pas. Donc c'est une partie de l'explication. Et puis la deuxième, le conseil scientifique, les scientifiques sont bien droits dans leurs bottes, c'est-à-dire qu'ils justifient chacune des décisions en fonction des études, des modèles, des algorithmes qui tournent comme ça dans le monde entier depuis le début de l'épidémie. Et ils nous ont dit cet après-midi que si ces mesures étaient respectées, eh bien on verrait une baisse de 50% des effets de l'épidémie à terme. Donc c'est quand même un objectif qui est à la fois important et capital pour la suite des événements.
Et le gouvernement systématiquement réfugie entre guillemets, mais en tout cas s'appuie sur les décisions de ce conseil scientifique pour justifier toutes ces décisions, et notamment celle d'avoir maintenu les élections municipales. C'était ce même conseil scientifique qui avait conclu.
La question leur a été posée plusieurs fois. Alors Olivier Véran a dit cet après-midi, le ministre de la Santé, il leur a dit, je leur ai bien posé la question en sortant toute de leur tête tout l'impact politique que ça pourrait avoir. Donc les scientifiques ont dit, si on peut aller faire ces courses, vous savez, ils disent ça, si on autorise les personnes âgées en particulier et tout le monde à sortir pour aller faire leurs courses, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas aller voter pendant 15 minutes à peine dans un bureau de vote. Mais ce qui est très intéressant à entendre, c'est ces scientifiques, ils sont très 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 loin de la polémique, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois très modestes aussi. C'est-à-dire qu'ils disent il y a plein de choses qu'on ne sait pas, qu'on ne sait toujours pas, c'est très important, et il y a plein de choses qu'on a appris au fur et à mesure des événements. Et ils nous ont raconté que vraiment jusqu'au 28 février, ils avaient le sentiment de maîtriser, mais enfin de comprendre un peu ce qui se passait. Le 28 février, avec la mort de cet enseignant de l'Oise à la Pitié-Salpêtrière, tout d'un coup, ils se sont dit, il n'y a pas forcément besoin qu'on vienne de Chine et qu'on ait des contacts avec les Chinois. Et puis, ils disent, la semaine de la bascule, ça a été vraiment la première semaine du mois de mars, où tout d'un coup, on a vu à la fois le cas à Mulhouse, vous savez, ce rassemblement, tout d'un coup il y a eu 81 cas, et là tout d'un coup l'arrivée dans les services de réanimation d'un nombre de patients avec des formes graves. Et puis surtout, c'est à ce moment-là qu'on a réalisé aussi que les patients jeunes pouvaient être atteints, et jeunes, c'est-à-dire 40, 50, 60 ans, pas forcément avec d'autres maladies. Et donc ça, ce constat sur le terrain, plus les modèles, plus le modèle italien, tout d'un coup ils disent tous, c'est à ce moment-là que tout a changé. Donc il y a quelque chose de ils avancent en même temps que l'épidémie. Ils disent, le virus est pour l'instant, il est devant nous, et maintenant il faut qu'il soit derrière nous, il faut qu'on le devance, cette course contre la montre et contre le virus.
Les informations d'Ève Roger sur ce déroulé et donc cette bascule au début du mois de mars, c'est récent, il y a une dizaine de jours. On est avec Philippe au 39-21. Bonsoir Philippe.
Bonsoir, c'est la Saint-Crêpes. Bonsoir.
Merci de vous joindre au débat. Qu'avez-vous pensé, vous, que pensez-vous des mesures qui sont appliquées depuis midi?
Les mesures, j'espère qu'elles seront efficaces. Moi, je suis à Nantes et je vous garantis, alors je me suis déplacé en remplissant mon attestation pour rentrer à mon travail, et quand je suis revenu, c'était impressionnant. Enfin, Nantes était vide. C'est très impressionnant. Donc les mesures, j'espère surtout qu'elles seront respectées. Mais concernant l'allocution de Monsieur Macron hier, alors il dit qu'effectivement on est en guerre, mais il n'avait pas un langage guerrier. Pourquoi il n'a pas dit confinement? Pourquoi il n'a pas été si ferme? Je rejoins complètement Madame Krupa. À force de diluer, après effectivement Monsieur Castaner a été plus direct, mais à force de que chacun parle, ça se dilue, et je pense que l'effet est moindre. Monsieur Macron aurait frappé. Alors sur le fond, globalement, enfin il a été, bon, ça a été bien, on a tout compris, ça a été un peu long certes, mais on a compris que c'était important. Enfin, en tout cas, moi je l'ai compris, j'espère que c'est le cas de tout le monde. Mais moi j'attendais le mot confinement, pourquoi pas qu'il nous fasse peur et qu'on reste chacun chez soi et qu'on se sorte le plus rapidement possible.
Nous sommes en guerre, répété plusieurs fois, n'a pas suffi à votre sentiment, c'est que ça ne suffit pas à faire peur.
Oui, je pense pas, c'est une expression, alors je pense que ça a dû, enfin, et moi ça me... Enfin, m'étonne que ça lui ait été étudié en communication, quel mot employer, etc. Mais j'ai dit, là où on en est, la communication, on s'en fout, qu'on dise les choses clairement, nettement, dire les gars, faites plus n'importe quoi, parce que l'attestation, j'espère, et franchement, que tout le monde la respectera, mais c'est n'importe qui. Moi, je tiens un magasin d'informatique, on avait le droit d'être ouvert encore hier. J'ai deux jeunes qui sont rentrés pour essayer d'acheter un disque dur, ils étaient à quelques centimètres de moi, je leur ai vu circuler, ils m'ont regardé en rigolant. Donc, ces gens-là, il faut leur faire peur.
Et donc là, ce sera le rôle aussi des amendes, hein. On l'a entendu avec le policier qui était en ligne avec nous tout à l'heure. Merci beaucoup Philippe d'être intervenu ce soir sur Europe 1 39-21. Évidemment, vous êtes tous les bienvenus ce soir jusqu'à 20h également sur les réseaux sociaux, le hashtag Radio Ouverte. Et vous le savez, le 39-21 est un numéro payant, mais en ce moment, Europe 1 reverse toutes les recettes à l'Institut Pasteur. On se retrouve dans quelques secondes avec les grandes voix.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs et Sébastien. C'est le débat des grandes voix jusqu'à 19h comme chaque soir. Mais ce soir, à distance, depuis chez eux, Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1, Mickaël Darmon, éditorialiste à Europe 1, et Laetitia Krupa, journaliste et spécialiste de communication politique.
Et on parle de ces mesures, bien sûr, qui sont entrées en vigueur à midi pile tout à l'heure. Déplacement extrêmement limité. Il faut rédiger ou imprimer cette attestation sur l'honneur avec un motif précis pour sortir, faire des courses ou bien promener son chien, ou avec des motifs extrêmement précis. On revient aussi sur ces déclarations d'Emmanuel Macron. Philippe, tout à l'heure au 39-21, nous disait qu'il avait trouvé Emmanuel Macron pas suffisamment ferme dans ses déclarations d'hier soir. Est-ce que c'est votre sentiment à vous aussi, Mickaël Darmon ?
Écoutez, tout à fait. Il a été regardé par 35 millions de personnes et je crois qu'il y a une grande majorité qui s'est dit on ne comprend pas ce que dit le président de la République. Vu tous les retours qui ont été assez immédiats et spontanés, que ça soit dans les sphères privées, que ça soit au sommet de l'État, dans les rangs du gouvernement, où on était absolument sidérés de la manière dont le président s'exprimait. Parce que on a tout à l'heure entendu parler d'une communication supposée bien séquencée. En réalité, moi, d'après ce qu'on comprend, il s'agit plutôt d'une communication contrariée. Toute la journée, avant la déclaration du président de la République, le Premier ministre a tenté de faire comprendre aussi au président qu'il fallait prononcer le mot de confinement. Lorsqu'il réunit les présidents de parti et chefs de groupe parlementaire dans la journée, il va même jusqu'à plaider en disant, vous savez, confinement, ça ne veut pas dire couvre-feu. Mais en fait, le président de la République n'a pas voulu endosser les mots difficiles. Il a préféré laisser ces mots être prononcé immédiatement après sa déclaration par le ministre de la Santé, Véran, qui a répété pas moins de 3 fois dans la même phrase, immédiatement, il s'agit de confinement. Et il a laissé, Castaner, parler d'interdiction. Les mots qui fâchent, il n'a pas voulu les prononcer. Et en fait, le mantra sur « nous sommes en guerre », qui a joué comme une sorte, au fond, de trompe-l'œil, en réalité, a permis aussi au président de ne pas être en première ligne en ce qui concerne la terminologie. Et ça a été remarqué. Et ça, on le voit bien en Macronie, qu'il y a un trouble depuis donc cette déclaration hier.
Oui, on sent que le gouvernement est entre deux chaises, essaye d'être sur une ligne de crête entre pédagogie d'un côté et fermeté de l'autre. Ça va être difficile à tenir, probablement, Laetitia Krupa. La fermeté, ça va être les sanctions. On l'a bien compris en entendant les policiers aujourd'hui. Il a fallu crier dans la rue pour demander aux gens de rentrer chez eux. La seule manière de faire, ça va être la fermeté, en fait.
Sur Emmanuel Macron a choisi de concentrer les pouvoirs, on le sait tous, il les dirige avec très peu de personnes autour de lui et c'est lui qui décide in fine. Donc quand il faut faire une communication où 35 millions de Français vous regardent, il faut prendre tous les degrés de la communication à son compte, c'est-à-dire les mots et aussi les détails concrets, c'est ce qu'on attendait hier soir. Après, pour la fermeté, aujourd'hui, il y a eu, un round d'essai, c'est-à-dire que effectivement les patrouilles se sont déployées et que les policiers sont allés au contact de la population, mais aucune verbalisation n'a eu lieu. Donc ce sera à partir de demain que les contraventions vont être dressées. Là, c'était une journée pour sensibiliser, pour expliquer, pour tenter de voilà de faire passer encore une fois le message pour que demain le confinement soit le plus complet possible. Alors il reste quand même des zones troubles, hein, je ne sais pas si vous avez compris. En tout cas, moi sur qui peut aller travailler ou pas, qui décide que le télétravail est possible ou pas, est-ce que ce sont les employeurs, est-ce que ce sont les employés, il y a quand même quelque chose d'un petit peu encore flou, il me semble, qu'il faudra affiner avec dans les jours à venir.
Oui, parce que Ève Roger, le gouvernement a choisi finalement de ne pas lister les métiers qui sont autorisés à travailler. Finalement, tout le monde est autorisé sur le papier à travailler. C'est ça peut-être aussi qui provoque un flou.
Peut-être. Et puis, il y a aussi la date. Je ne sais pas si hier vous avez entendu les rumeurs les plus folles. On disait 40, 45 jours. Et puis, il arrive le soir, le président de la République, en disant c'est 15 jours. Donc, c'est vrai qu'on a tous été un peu étonnés aussi par ces deux semaines plutôt que plus longtemps. Ce que je trouve intéressant, moi, c'est, je ne sais pas si je vais être capable de vous l'expliquer, mais en réalité, si vous mettez tout le monde en confinement de façon extrêmement stricte, ça veut dire que vous mettez la ville et le pays sous cloche. À quel moment vous allez lever la cloche et dans quel état vous allez trouver les gens? Ça veut dire que le virus n'aura pas circulé dans la population, et si le virus ne circule pas dans la population, à la moindre étincelle, ça repart de plus belle.
Donc vous comprenez, il peut revenir après, c'est ça la question.
Il peut absolument revenir après. Donc le confinement ultra strict n'est pas forcément peut-être la meilleure des solutions. Il faut laisser le virus circuler un tout petit peu, suffisamment pour que la population connaissez ce concept d'immunité collective, c'est-à-dire qu'à un moment, si le virus a traversé la population, eh ben il s'éteindra de lui-même.
Donc il y a au moins la moitié de la population.
Les scientifiques du Conseil disaient cet après-midi, en réalité on ne sait pas très bien, il y a beaucoup de chiffres qui circulent, tous les modèles circulent, et il y a autant de modèles que de chiffres, et autant de chiffres que de modèles. Mais disons qu'il y a quand même cette préoccupation-là. En Chine, par exemple, rien ne dit qu'une fois que le confinement est levé, qui a été ultra strict, on ne sait pas si à un moment ou à un autre, le virus ne va pas reprendre une vie à travers la population.
Est-ce qu'on
Donc sait ça, c'est un élément important.
Que disent les scientifiques? Au bout de combien de temps on saura si ces mesures de confinement qui débutent aujourd'hui ont un effet et produisent des effets?
Alors, là, il y a une réponse là qui est assez claire, c'est pas avant 15 jours. Parce que 15 jours, c'est le temps pour quelqu'un d'incuber, de déclarer la maladie et d'aller ou non en réanimation. Donc c'est dans 15 jours, on va regarder si le nombre de personnes en réanimation commence à baisser ou pas. Aujourd'hui, le chiffre, il est de 550 personnes en réanimation. Dans 15 jours, il faudra faire la comparaison. Donc ce qui est absolument sûr et certain, c'est que on va être confiné beaucoup plus que 15 jours, enfin plus en tout cas que 15 jours, ça va être prolongé. Mais ça veut dire que c'est à partir de là qu'on verra les effets, et à ce moment-là, on adaptera toujours. Alors vous dites, ils se réfugient derrière le comité des scientifiques, moi je crois pas que c'est se réfugier, c'est ce qu'on appelle l'éclairage politique, de la décision politique. C'est à ce moment-là qu'on verra combien de temps encore il faut prolonger le confinement, si et seulement si les cas commencent à être moins nombreux dans les services de réanimation.
Et Olivier Véran, le ministre de la Santé, a dit aujourd'hui que ce confinement pourra être allégé dans 15 jours si la situation s'apaise.
C'est une autre possibilité, absolument.
Il a dit allégé, il n'a pas dit supprimé ou suspendu. Donc effectivement, on peut s'attendre à ce que ça dure plus que 15 jours. Olivier est avec nous au 39-21. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Bienvenue sur Europe 1.
Bonsoir à vous, merci. Alors moi, je voudrais savoir, poser une question. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, pourquoi les hommes politiques aujourd'hui sont en face, pour moi ils sont en face d'une situation, c'est quand même eux qui ont, à politique confondue, qui ont quand même passé des textes de loi, qui ont supprimé des ailes d'hôpital, supprimé des lits, supprimé du personnel dans les hôpitaux. Aujourd'hui, ces gens-là, tous de bord politique confondu, devraient rentrer quand même devant une glace et se dire, on a quand même fait quelque chose de mal aujourd'hui. Parce que quand on voit, par rapport à ce fléau-là, qui est le coronavirus, ce virus-là, on en a pour combien de temps? On ne sait pas. Alors, aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'on dit, à un certain moment, on va supprimer des postes dans les hôpitaux, on va supprimer des postes dans l'enseignement, et ainsi de suite. Et quand on est devant le fait accompli, quand on est devant un gros problème, tout le monde se reflète un petit peu la balle. Aujourd'hui, voilà.
Peut-être
quoi.
Une toute petite réaction, Olivier, d'Ève Roger, qui connaît bien ce sujet-là. Ève, est-ce qu'on est en train de payer, en gros, les dégâts et le mauvais état de l'hôpital public aujourd'hui?
Ah bah je ne crois pas, je dirais c'est presque plutôt l'inverse. C'est incroyable la mobilisation du personnel soignant et des hôpitaux aujourd'hui. Ça sera après. La facture, elle viendra après l'épidémie. On verra le nombre de personnes d'abord qui auront été contaminées, le nombre de tous les effets de l'épidémie dans les hôpitaux, plus ajouté à la crise de l'hôpital public, on verra ça après. Mais pour l'instant, au contraire, je crois que l'hôpital, et je crois qu'on va les applaudir ce soir à 20h, de notre balcon, l'hôpital fait vraiment le mieux possible. C'est vraiment l'excellence de l'hôpital public qui est là en œuvre.
Et l'excellence aussi de l'armée française, puisque les armées viennent en aide désormais aux hôpitaux, avec un hôpital de campagne qui va être mis en place en Alsace, et avec des transferts de malades depuis l'Alsace, dont les hôpitaux sont saturés, vers le sud de la France. On l'a appris aujourd'hui. Je voudrais qu'on termine peut-être avec vous, Mickaël Darmon, sur les déclarations du jour. On en parlait tout à l'heure dans le journal de 18h. D'Agnès Buzyn, qui se lâche complètement dans un article du journal Le Monde. Elle explique qu'elle a très très mal vécu cette campagne des municipales, et surtout elle dit « J'avais prévenu le Premier ministre, on aurait dû tout arrêter bien avant ».
Oui, alors ça c'est la nouvelle déflagration au cœur de la Macronie, hein, qui est toujours très créative pour donc rebondir de polémique en polémique. Ce que vient de dire là Agnès Buzyn, même si elle a produit il y a maintenant de cela une heure un communiqué de presse tout en contrition pour dire que ses propos avaient été pris dans un certain contexte et qu'elle soutenait quand même le gouvernement, tout en regrettant le terme de mascarade. Ça, c'est donc pour dire aussi de son côté ce qu'elle a voulu exprimer, mais il n'empêche que elle soulève une question extrêmement grave et qui sera très certainement, qui fera le miel de l'opposition et de tous ceux qui veulent critiquer, c'est-à-dire au fond, qu'est-ce que savaient réellement les autorités, le cœur de l'appareil de l'État sur la réalité de la situation. Et le fait qu'elle ait posé ses propos explosifs sur la table, eh bien, effectivement, vont soulever cette polémique. Il y a également un autre aspect que l'on peut envisager, puisque dans cet article-là, elle annonce qu'elle a demandé sa réintégration à l'hôpital. On a quand même aussi le sentiment que, quelque part, eh bien, elle vient peut-être un peu rejoindre le discours du corps médical, et comme si il fallait qu'elle puisse s'éloigner du monde politique et peut-être revenir vers les médecins, et donc s'aligner un petit peu sur leur discours, parce que la question centrale maintenant, c'est: au mois de juin, il y aura un second tour, donc pour à Paris notamment. Sera-t-elle encore candidate? Est-ce que La République En Marche va être obligée de chercher encore un nouveau candidat ou une nouvelle candidate pour terminer cette élection? C'est encore l'imbroglio qui continue. Puis enfin, alors que tout le monde n'arrête pas d'avoir aussi Macron le premier des propos pour dire on va finalement s'en sortir, et les médecins, on vient d'écouter avec Ève Roger, calibre au plus près les évolutions de l'épidémie, elle lâche, il va y avoir des milliers de morts. Donc c'est absolument incompréhensible, sinon à comprendre qu'elle est en train aussi de tenter une réintégration vers ce monde médical,
vers l'hôpital, qu'elle a quitté pour la politique. Et elle dit qu'elle ne sait pas de quoi son avenir sera fait. En tout cas, elle ne parle plus du tout de politique dans cet avenir. Elle parle aussi de ses larmes le jour de son départ du ministère de la Santé, en disant que ses larmes, c'était aussi parce qu'elle savait que la vague du tsunami de ce virus était devant nous. Merci. Les grandes voix, Laetitia Krupp pas ce soir, Mickaël Darmon et Ève Roger.
C'est un dernier mot très rapide. Qu'elle resterait candidate. Hein, donc, pour l'instant,
son
c'est quand même.
Son équipe a envie d'y croire pour l'instant.
Oui, peut-être, mais enfin, il faudrait que tout ça soit absolument. Parce que moi, il me semble que ce que Agnès Buzyn a fait aujourd'hui, c'est sa sortie définitive de la politique.
Ça y ressemble, en tout cas.
C'est irresponsable d'avoir donné une interview de cette tonalité-là dans cette actualité-là. C'est irresponsable.
Merci à tous les trois. Le journal de 19h d'Isabelle Millet dans quelques secondes. À tout de suite.